Vous êtes sur RTL. Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous de ce samedi 18h30, 1h. Hein, on fait le match axé sur le mercato d'hiver et surtout deux échecs retentissants pour deux joueurs qui restent dans la place et pas forcément de bon cœur pour des raisons diverses. Nous nous intéresserons évidemment à Edinson Cavani. Il sera parisien jusqu'au mois de juin. Trop gourmand, trop capricieux, pardon. Cavani s'est-il grillé? Olivier Giroud, barré à Chelsea par Abraham, devait aller à l'Inter, voire Tottenham ou la Lazio. Mais Giroud restera à Chelsea pour cirer le banc la plupart du temps. La preuve, il n'était même pas sur la feuille de match cet après-midi du match Leicester-Chelsea. Du coup, Giroud à l'Euro, est-ce si sûr? Nous évoquerons le Brexit et ses conséquences sur le football et nous nous poserons la question de savoir ce qu'il reste du mondial féminin. Nous sommes ce soir avec Bruno Constant. Bonsoir.
Bonsoir Denis.
Le vacancier, c'était bien le Cambodge?
C'était magnifique.
Apparemment, j'ai vu vos photos, bravo.
Et j'ai même découvert que le PSG fait ses premiers pas en Asie parce qu'il y a, évidemment toujours beaucoup de maillots anglais, de clubs anglais en Asie. Mmh. Il y a énormément de maillots du PSG. Je tombais sur des gamins qui me disaient que le PSG était magnifique, ils le regardaient jouer, ils connaissaient la Ligue 1, ils connaissaient Lyon, ils connaissaient Monaco.
Et alors, comme quoi, il lance les perruques maintenant aussi.
Comme quoi, non, mais comme quoi le travail de la Ligue et du PSG en Asie, bah, ça fonctionne.
Sébastien Tarrado de l'équipe qui prend pas beaucoup de vacances, lui.
Si, mais plus discrète.
Oui. Stéphane Powels, bonsoir.
Bonsoir. Non, je suis surpris qu'il n'a pas encore les perruques de Neymar. En Asie, vous avez vu ses cheveux, Neymar, ouais. Ça vous plaît?
Bah non, mais bon,
ça après, vous irait bien.
Moi, avec le rouge du décor, c'est moyen. Et David Ayello de Yahoo Sport.
Bonsoir, mon cher Denis. Je vois que vous dévoilez les vacances des uns et des autres comme ça.
Non, mais parce que j'ai suivi le périple de Bruno Constant avec énormément de plaisir et c'était ravissant. Merci à vous, Bruno Constant. On se retrouve dans quelques instants donc avec Sébastien Tarrago de l'équipe, Bruno Constant, Stéphane Powels, David Ayello de Yahoo Sport. À tout de suite sur RTL.
RTL, on refait le match. Suivez. Prokin.
Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Avec Sébastien Tarrago de l'équipe, Stéphane Powels, Bruno Constant et David Ayello de Yahoo Sport, nous allons parler d'Edinson Cavani. On avait déjà évoqué évidemment le sujet samedi dernier puisqu'il était en instance de départ pour l'Atlético Madrid. Finalement, il ne va nulle part, il a été trop gourmand, il a été trop capricieux. Sébastien Tarrago de l'équipe, en tous les cas, Cavani s'est-il grillé?
Est-ce qu'il s'est grillé à travers son attitude du mois de janvier? Je ne suis pas sûr. Moi, je pense qu'il est grillé par rapport à son niveau actuel et par rapport à ses caractéristiques techniques. Je pense fondamentalement, et c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi finalement le PSG l'a conservé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne crois pas que Cavani soit le remplaçant d'Icardi, comme on le dit si souvent. Je pense qu'il est peut-être, dans le meilleur des cas, le remplaçant de Sarabia, qui lui-même est le remplaçant d'Icardi. Et je pense que si demain Icardi est suspendu ou blessé, ce n'est pas Edinson Cavani qui jouera, ce sera Sarabia. Et c'est pour ça que je trouve que s'asseoir en gros sur 25 millions d'euros, si vous comptez le salaire chargé et l'indemnité de transfert proposée par Atlético Madrid, à savoir 15 millions, c'est beaucoup d'argent pour le Paris Saint-Germain. Donc j'ai du mal du coup à saisir, vu l'évolution. Au début du mois de janvier, je pensais qu'il fallait le garder. Mmh. Mais vu l'évolution de l'équipe, on sait très bien que Mbappé et Neymar n'ont pas très envie de jouer avec lui, et je peux le comprendre parce que c'est aussi pour des considérations techniques. Je vois pas l'intérêt.
Et en plus, ma question aussi, c'est de se dire pourquoi finalement, entre guillemets, on pollue un petit peu le vestiaire, parce que Cavani, on gagne de l'argent en le faisant partir, et finalement, on va avoir un poids sur les épaules.
Je peux comprendre Sébastien Tarrago, la peur, pour surtout vu ce qui s'est passé au cours des dernières années, pour un club de se dire, allez, on va affronter Atlético Madrid en quart et c'est Cavani qui va nous éliminer. Mais si vous commencez à avoir peur dans le sport de haut niveau de ce genre de choses, alors vous avez peur toute votre vie et vous ne gagnez jamais rien.
Stéphane Powels.
Je ne vais pas répéter ce qu'a dit Sébastien parce que c'est pas la peine, sinon je serais bousillant, je rentre chez moi tout de suite. Oui. Mais d'abord, je suis complètement d'accord, mais il y a un truc qui m'échappe. Le gars, de toute façon, il prend 1 million d'euros par mois, net. Nous sommes bien d'accord? Moi, je suis à sa place. Depuis le début, je reste peinard, excusez-moi, j'ai un autre regard. Il lui reste 4 mois.
Mais s'il en veut plus.
Attendez, il n'y a aucun objectif. Sportivement parlant, pour lui, pas de Coupe du Monde. Avec son équipe nationale, il va quand même être appelé. Et donc, le seul objectif, c'est de pouvoir jouer plus. Au Paris Saint-Germain, comme l'a dit Sébastien, ça va être très compliqué. Deux solutions. Ou je reste là et je prends le pognon, ou j'accepte d'aller dans des conditions moindres ailleurs si vraiment je revendique de jouer au ballon. D'accord ? Sauf que, comme dit Sébastien, il y a vraiment eu des offres sérieuses. et il part pas. Donc ça veut dire que le mec il pense qu'au pognon.
Non, c'est Paris, c'est pas sûr.
Ou Paris, et Paris, c'était compliqué.
Paris, c'est le
j'ai juste envie de dire que maintenant, et là je reviens sur ce que vous dites, Denis, c'est de le côté pollué à vestiaire. C'est en train, excusez-moi, un peu cru, de faire chier tout le monde cette histoire. Et donc il y a un moment, ils vont se le traîner. À moins
pas,
que,
à moins parce qu'il est quand même.
Bah, allez, vous savez, les médias quand ils jouent 3 minutes en championnat,
il est isolé,
on en parle,
dans le vestiaire,
on en parle.
C'est pas un élément moteur du vestiaire.
David
donc,
Ayello,
je suis pas sûr que ça perturbe tant que ça le vestiaire parisien. Parce que voilà, parce que c'est pas un élément moteur du vestiaire.
Mais est-ce qu'on est d'accord? Moi, il y a un point que je suis pas d'accord avec Sébastien, c'est de dire qu'il est le suppléant. Alors peut-être que tu as raison, mais je me dis quand même que si demain dans les fantastiques, il y en a un qui se fait demain une grossesse nerveuse, une embolie gazeuse et qui joue pas, il va peut-être bien falloir à un moment faire jouer Cavani.
Je crois pas.
Non. Bon.
Je pense que Sarabia est largement devant.
Pour répondre à la question initiale sur le fait de savoir si c'est grillé ou pas, en tout cas, ce que j'observe sur les réactions qu'on peut avoir, notamment voir sur les réseaux sociaux ou de manière générale dans les discussions, j'ai quand même l'impression que son image, effectivement, est un petit peu écorné par cette histoire, le voir vouloir comme ça partir coûte que coûte, alors que bon voilà, il reste quand même 6 mois à jouer au Paris Saint-Germain, ça lui condamne s'il était parti là lors du mercato, ça lui aurait pas permis d'avoir une belle sortie. J'ai l'impression quand même que ça a joué sur son image et que bon, déjà ce qui s'est passé sur le terrain, on voit bien quand même qu'il est plus le joueur fantastique qu'il a pu être en termes de rendement, et que à la fois sur le terrain et en dehors du terrain, il a perdu un petit peu de crédit.
On va rappeler que cet après-midi le PSG affronte Montpellier. Il y a 3-0 avec un rouge pour Montpellier, le gardien de but. Donc, ce serait étonnant de voir Cavani, qui est sur la feuille, rentrer.
Et moi aussi, au contraire. Justement, aucun risque.
Aucun risque.
Il va rentrer ou pas rentrer?
Justement, Paris, si tu ne le fais pas rentrer là.
Benoît Constant, là, quand je dis Cavani, s'est-il grillé? Est-ce qu'il aussi s'est grillé? On sait l'amour que le public lui porte, 198 buts avec le maillot du PSG, mais aussi sa combativité, sa niaque, etc. Même s'il y a eu des occasions ratées, on en a aussi parlé. Est-ce qu'il s'est grillé avec le public du Parc des Princes?
Pas du tout. Moi, je pense que le public est pas bête. Il a bien compris que Cavani, qui joue pas et qui se contente, malheureusement, on lui laisse que quelques petites miettes en championnat et quelques titularisations dans les coupes qui comptent pas beaucoup. Je pense que le public est bien conscient qu'il avait besoin de jouer, qu'il avait envie de jouer, que le fait de vouloir aller à l'Atlético, c'est pas une trahison vis-à-vis du PSG. Lui, il rêvait de finir emboîté au PSG. C'est pas le cas. Moi, ce que je comprends pas, c'est pas tellement Cavani. Ce que je comprends pas, c'est le PSG. Je comprends pas l'attitude du PSG de pas vendre un joueur qui est en fin de contrat à la fin de la saison. De pinailler entre guillemets pour 3-4 millions d'euros, même si c'est beaucoup d'argent. On a eu au même mercato Eriksen de Tottenham qui est parti à l'Inter Milan, un joueur beaucoup plus jeune qui est parti pour à peu près la même somme, entre 15 et 18 millions d'euros. Je comprends pas que le PSG ne lâche pas Cavani. Ou alors leur intention, c'est effectivement de pallier une éventuelle blessure d'Icardi dans le futur.
Bah c'est ça, Bruno.
Mais à ce moment-là, si c'est ça, tu le fais jouer bien avant, tu lui donnes du temps de jeu sur les 6 premiers mois de la saison et pas des miettes.
Il a été beaucoup blessé, attention.
Mais quand il a pu jouer,
est-ce que sur la fin c'était pas une blessure diplomatique
et pas un quart d'heure?
Bien sûr, je voulais. Quand est-ce que je vous en ai parlé la semaine dernière? Vous bondissiez là sur dans le plateau.
Si, je vous ai vu à la télé.
On disait pas.
Bien sûr, il était en état de jouer. Il était en état de jouer.
Ça va. Son attitude, moi, elle m'interpelle quand même. Bruno, tu dis, on peut comprendre qu'il ait eu envie. Moi, ce que je comprends pas dans son attitude, c'est qu'il baisse aussi rapidement les bras.
Bah, il baisse pas aussi. Ah, le mec, il en a marre.
Désolé, ça fait presque un an. Il a été blessé une bonne partie de la saison. Il revient, il y a un mec qui plante but sur but. Et au bout de un mois derrière, il dit bon, bah, je vais partir alors qu'il vient de passer 6 ans et demi dans le club.
Rappelle-toi l'histoire du pénalty. L'histoire des quelques minutes dans le championnat en Coupe de France.
Tu veux rappeler l'histoire, il faut rappeler toute l'histoire.
Parce qu'il
y a une espèce de mythe autour d'Edinson Cavani. Edinson Cavani, c'est également un joueur qui, juste deux jours avant un match capital à Chelsea, a parlé dans les colonnes de l'équipe. Ça a été oublié. On prenait toujours Cavani comme un joueur parfait qui ne parle jamais. Deux jours avant un match capital, c'était à l'époque d'Ibrahimovic, il a pris la parole dans l'équipe pour expliquer que son cas, quand même, était embêtant parce que Ibrahimovic jouait dans l'axe. C'est pas lui. C'est également un joueur qui a été sanctionné plusieurs fois par le club pour des retards réguliers.
Alors on peut dire ça de Neymar,
je suis d'accord, mais on présente souvent Cavani comme un genre idéal.
C'est pas Neymar,
c'est pas
quand même.
Idéal,
c'est moi, je trouve là que son attitude m'interpelle.
Quand tu marques 198 buts en 6 ans avec un club, tu peux avoir un petit cas.
Profondément et viscéralement attaché au club, ne pas chercher à avoir les mêmes joueurs.
S'il vous plaît, pas tous en même temps.
Juste, je reviens sur ce qu'a dit Sébastien. Mais je pense que c'est vraiment ça, la vraie clé. Pourquoi il ne laisse pas partir à l'Atlético? Juste dans cette peur de dire merci, on
parce que aussi vous voulez beaucoup d'argent si peut-être.
Attends Stéphane,
je suis pas si sûr.
Ils ont
Stéphane,
fait monter
si,
les enchères.
Si pas si sûr que c'est un pognon. À l'Atlético et que l'Atlético élimine le Paris Saint-Germain David dernier Aïe, en quart de finale sur un but d'Edinson Cavani, qu'est-ce que tu vas dire?
C'est le football
évidemment les gars.
Mais c'est le football, c'est toujours comme ça.
Faut arrêter à un moment, faut arrêter à
aller
des sièges à Londres alors.
S'il vous plaît, on va aller voir Nicolas Georgerot au nom d'Edinson Cavani, comment réagit le Parc des Princes Nicolas?
Oui, il a été acclamé, ça a été vraiment la même situation que lors des derniers temps en fait, donc les trois semaines qui viennent de s'écouler n'ont pas modifié la chose. Et c'est vrai que son nom a été scandé par le public du Parc des Princes.
Alors on va changer la question, parce que bon, Cavani, on a compris que c'était plus finalement un poids, mais finalement, comme le dit David Aiello, c'est pas un homme de l'équipe, donc il va se mettre dans son coin, il va attendre le mois de juin et prendre 1 million net. Finalement, c'est le PSG. Est-ce que pour le PSG, c'est un poids ou un atout, David Aiello, Yahoo Sport?
De l'avoir dans cette situation, ouais. Bah, s'il reste comme ça, déjà, Thomas Tuchel l'a rappelé, il y a quand même un déficit de confiance à retrouver chez ce joueur. On a bien vu que toutes ces dernières apparitions sur le terrain étaient quand même assez catastrophiques en termes de, justement, de confiance dégagée. Alors déjà que c'est un joueur qui brille pas forcément par ses qualités techniques. Si en plus il a pas la confiance, ça devient compliqué. Donc il y a ce premier point quand même à récupérer. Et ensuite, derrière, dans un deuxième temps, il pourra devenir un atout.
Bon, donc Constant.
Mais la confiance, faut aussi lui redonner. Si tu lui donnes 3 minutes, 4 minutes de jeu en fin de match, ça ne se passe plus rien, c'est quand même compliqué. Même s'il y a eu des pépins physiques, et à un moment donné, on va quand même pas m'expliquer que s'il est sur le banc, c'est qu'il est capable de jouer au moins 10, 15, 20 minutes. Donc s'il est capable de jouer 10, 15, 20 minutes, au moins qu'on lui donne 10, 15, 20 minutes. C'est ça, là, de lui redonner la confiance.
C'est pas ça, l'idée du sport.
Non, mais c'est dans l'intérêt du PSG. Si tu le gardes coûte que coûte, c'est ce qui s'est passé au mois de janvier, c'est que tu as dans l'idée peut-être de le faire jouer s'il y a un souci, s'il y a des pépins.
Non, mais il faudrait vraiment qu'il y ait un concours de circonstances.
C'est
vrai que Icardi, Sarabia, éventuellement
vous allez hurler, mais je suis désolé.
Sébastien Tarago, l'équipe.
Edinson Cavani, c'est Olivier Giroud à Chelsea. C'est tout.
Ah non, je ne suis pas d'accord.
Mais si. Mais
moi,
il jouera pas. Mais
Sébastien Tarago.
C'est pas tout à fait pareil, non.
Oui, mais il le garde dans l'esprit. Il le garde au cas où pour éviter les problèmes. Et ils se disent, ok, on perd 25 millions, mais on n'a pas de problème. Et vu ce qui s'est passé depuis 2, 3, 4 ans, on ne peut pas se permettre en termes d'image de prendre un risque. Et je trouve ça ridicule, mais et de prendre le risque de tomber sur Atlético Madrid et que Edinson Cavani nous élimine. Mais sinon, je ne vois pas autre chose, puisque sportivement, tu as largement de quoi te passer d'Edinson Cavani. Surtout le Cavani depuis un an et demi. Pardonnez-moi, mais c'était devenu un joueur moyen.
Alors, Seb, je veux bien rejoindre que c'est devenu un joueur moyen, mais c'est un fou qui vous le dit ici. Et je pense qu'au fond, certains dirigeants de Paris, et certainement Leonardo, il se dit quand même à un moment, on me dit qu'il faudrait beaucoup de concours de circonstances, de niveau dit. Mais excusez-moi, mais ça va vite dans le foot quand même. Bah, demain, Neymar, je le souhaite pas, hein, on s'entend bien, il se casse la jambe et il y en a un autre qui a une grippe, vous êtes bien obligé de le faire jouer. Hein. Et je pense que c'est ça, c'est cette peur de se dire.
Je pense que c'est ça aussi. Moi.
C'est vraiment
c'est
cette
les
peur.
Blessures.
C'est les blessures, c'est se dire, on fait comment si ça arrive. Au football, ça arrive, Sébastien.
Mais oui,
ça
peut arriver. Je pense qu'il faut pas une blessure, je pense qu'il faut pas deux blessures.
Il faut 3 ou 4, il faudra aussi que Cavani est dans la tête l'envie de...
Attendez, ça c'est un grand compétiteur, vous en faites ce que vous voulez. Moi je l'ai vu quand même, excuse-moi David, quand il était au fond du trou avec Paris, je l'ai vu jouer avec son équipe nationale, il courait comme un lapin et il se battait sur tous les ballons. Je pense que c'est quand même un mec qui a la grinta et qui est tout à fait capable. Mais si à un moment tu dois le faire jouer par... Tu le fais jouer par obligation parce qu'il y a des blessures, le mec il est capable de te faire gagner un match.
Vous allez me répondre à cette question très rapidement, très brièvement. Cavani s'est-il grillé, Stéphane Powels, en restant au PSG, David Aiello, Yahoo Sport?
Un peu.
Bruno Constant?
Non.
Sébastien
Tarago, non, à moyen terme, non. Il va trouver un club cet été, il n'y aura pas de souci.
Nicolas Georgerot, toujours 3-0 pour le PSG contre Montpellier avec une équipe montpellienne réduite à 10. Et comment va Neymar au fait?
Eh bien, Neymar va bien, il est revenu sur la pelouse. On pouvait se demander, on pouvait se poser la question en raison de l'écart. 3-0 à la pause parce qu'il avait reçu donc un coup sur le fessier, dans le bas du dos, avec un choc avec Souquet en fin de première période. Mais il est revenu. Et d'ailleurs Thomas Tuchel lui a glissé quelques mots au moment de rentrer sur la pelouse. Il écartait les bras, Neymar. Est-ce que c'était pour lui dire de pas trop en faire, parce qu'on l'a vu encore faire quelques
il a pris
gestes,
un carton jaune non aussi.
Oui, exactement, un carton jaune à la 38e. Donc est-ce que c'était lui dire d'être un petit peu plus sobre en seconde période? Mais en tout cas, il est bien sur la pelouse pour la seconde période. But de Sarabia, un but de Di Maria et un but contre son camp de Congrès. Donc 3-0 pour l'instant après 2 minutes en seconde période.
On se retrouve très vite évidemment, Nicolas Georgerot, en direct du Parc des Princes, PSG Montpellier, le Paris Saint-Germain qui mène 3-0. Nous allons parler d'Olivier Giroud, barré à Chelsea par Abraham. Il est resté à Londres alors qu'il était convoité par l'Inter, Tottenham ou la Lazio. Du coup, Giroud à l'Euro, est-ce si sûr? Nous évoquerons le Brexit et ses conséquences dans le football. Nous parlerons également du Mondial féminin, ce qu'il en reste après justement cette Coupe du Monde. Nous sommes avec Sébastien Tarago de l'équipe, Bruno Constant, Stéphane Powels et David Aiello de Yahoo Sport jusqu'à 19h30. Vous êtes sur RTL, à tout de suite.
RTL, on refait le match. RTL. On refait le match.
Denis Balbir sur RTL.
Bruno Constant, Sébastien Tarago de l'équipe, Stéphane Powels, David Aiello de Yahoo Sport. Nous allons parler d'un autre laissé un petit peu pour compte depuis quelques jours, depuis quelques heures, depuis la fin du mercato. Olivier Giroud, on le voyait partir. Didier Deschamps avait dit que ça serait bien qu'il s'en aille de Chelsea parce qu'il ne joue pas. Et évidemment, Olivier Giroud a écouté les conseils. Il a donc été sollicité par l'Inter et Conte, qu'il connaît bien puisqu'il l'a côtoyé à Chelsea. Tottenham, la Lazio, finalement, rien n'a marché. Sa seule chance, c'est que Abraham soit un petit peu blessé à la cheville. Mais Giroud n'était pas sur la feuille de match d'après-midi de Leicester Chelsea.
Le problème, c'est qu'Abraham, lui, était titulaire.
2-2, Abraham était titulaire, donc Giroud chez lui.
C'est une bonne nouvelle pour Giroud.
Est-ce que c'est sûr maintenant que Giroud est vraiment en danger pour l'Euro? Sébastien Tarago de l'équipe.
Ah oui, il est en immense danger. Parce que là, pour le coup, si jamais il ne devait plus jouer du tout, parce que là, il ne joue plus du tout, jusqu'à la fin de la saison, ou grappiller 4-5 minutes ici ou là, je ne vois pas comment Didier Deschamps pourrait s'appuyer sur lui. Malgré ses très bonnes performances en septembre, en octobre, en novembre, c'est très compliqué, c'est triste à dire, mais j'espère pour lui qu'il va y avoir un blessé d'or.
39 buts en 97 sélections en bleu. Le problème, effectivement, Sébastien Tarago de l'équipe l'a soulevé. Il y a l'état physique aussi, Bruno Constant, parce que ne pas jouer 192 minutes jouées depuis l'été dernier par Olivier Giroud.
7 matchs cette saison.
Bruno Constant.
C'est peu.
L'Euro, c'est mort.
Non, je pense pas. Je pense pas. Ça dépend évidemment de Frank Lampard. C'est lui qui a vraiment les clés de ce problème. Sur les 6 premiers mois, il a fait énormément confiance à un jeune Tammy Abraham qui a vraiment explosé, qui est une des révélations de cette saison en Première Ligue, qui commence à piocher un petit peu, autant physiquement que devant le but. Et moi, je pense que plus les semaines vont passer, plus Lampard va devoir se fier un peu plus à Olivier Giroud, qui est un joueur d'expérience.
Il n'était même pas sur la feuille.
Ça ne me surprend pas, parce qu'il était en instance de transfert, il avait demandé à partir, etc. etc. Lampard ne fait pas beaucoup confiance à Batshuayi, qui est certes un remplaçant qui rentre, mais qui est rarement titulaire, pas une seule fois en championnat, et qui est très décevant. Et je pense surtout que cette équipe de Chelsea, qui pioche depuis plusieurs semaines, qui est en train de perdre beaucoup de points dans la course à la qualification pour la Ligue des Champions, a besoin d'un joueur d'expérience, quelqu'un sur qui s'appuyer. Et je pense que Giroud.
Il n'y avait pas une petite tension entre Lampard et Deschamps aussi à un moment donné?
Non, mais moi je comprends autant l'attitude de Deschamps que celle de Lampard. Lampard, il n'a aucun cadeau à faire aux sélectionneurs de l'équipe de France. Et puis surtout, Lampard, il est furieux après ses dirigeants. Il attendait des renforts. Ils avaient été privés de transfert l'été dernier. Ils avaient récupéré la suspension avait été levée en janvier. Il espérait au moins 2 renforts. Ils ne sont pas venus. C'est la raison pour laquelle il n'a pas lâché Olivier Giroud, parce que Giroud, il aurait pu partir à l'Inter, mais ils ont essayé de faire Cavani préférait l'Atletico, ils ont essayé de faire Timo Werner, et Leipzig n'a pas voulu le lâcher, pas plus que Naples a voulu lâcher Mertens. Donc à un moment donné, il s'est retrouvé bloqué face à la réalité du marché. Et là, le problème, c'est que je pense qu'il va avoir besoin de Lampard, il va avoir besoin de Giroud. Vu la situation de Chelsea aujourd'hui, il va avoir besoin de Giroud assez vite.
Stéphane Powell.
Alors je vais prendre un autre angle, bien sûr, ce que tu dis sportivement, moi j'ai un autre angle, c'est je pense qu'il va aller à l'Euro. Et il va même arriver frais, c'est le cas de le dire, puisqu'il reste 19 matchs maintenant, il va pas jouer beaucoup. Ah oui, mais rappelez-vous, à la Coupe du Monde.
Arriver frais quand tu joues jamais.
Attendez, à la Coupe du Monde, il jouait pas beaucoup non plus.
Non, mais il rentre pas beaucoup, il jouait du tout.
Mais il a été titulaire. Et moi, je vous dis que dans le système de jeu.
Il joue l'Europa League.
Il joue l'Europa League. Didier Deschamps n'a pas 36 000 positions dans son système de jeu avec un target man qui joue comme lui dans ce système-là et des automatismes avec les autres.
Bah, c'est surtout que pour remplacer Giroud, il n'y a pas grand monde.
C'est ce que je viens de vous dire. Donc je pense qu'il va y aller, tout simplement.
Mais là, ça n'existe pas. Pardon, Stéphane.
Ça va exister.
C'est-à-dire que là, jouer un match de temps en temps, oui. Mais déjà, là, à octobre-novembre, Didier Deschamps le mettait titulaire sur le premier match et remplaçant sur le deuxième parce qu'il considérait qu'il ne pouvait pas enchaîner.
Mais sauf que là,
en envoyant un signal.
Là, à l'Euro,
il va être là.
Si tu joues tous les 3 à 4 jours.
Il va le prendre avec, Seb.
Oui, mais tu ne peux pas enchaîner. Et c'est pour ça que moi, des fois, j'ai envie de renverser la question. Ok, il y a un problème pour Olivier Giroud, mais est-ce que ce n'est pas un énorme problème pour l'équipe de France? Je m'explique. L'équipe de France de Didier Deschamps. C'est-à-dire que si Olivier Giroud n'est pas là ou pas en état d'être titulaire, c'est tout un château qu'il y a à reconstruire.
C'est tout l'équilibre.
Parce que c'est tout un équilibre. Olivier Giroud, ok, on peut discuter, il n'a pas marqué la Coupe du Monde. Ok, très bien. Mais c'est une équipe qui, quelque part, est bâtie autour de son profil. Et ça veut dire que si Olivier Giroud n'est plus là, moi je vous dis tout de suite, il sera obligé de mettre Mbappé. Parce que Mbappé, il ne laissera pas. Mbappé, il n'ira pas à droite si en plus Olivier Giroud n'est pas là. Donc ça veut dire que ce n'est plus du tout le même profil d'équipe. Donc il faut tout retravailler.
Donc ça veut dire qu'il va le prendre pour les raisons que tu dis, Sébastien.
David Aiello, il y a
quelque chose qu'il faut rappeler. Enfin, Didier Deschamps, c'est pas un apprenti. Je veux dire, dans tout ce qu'il fait, il y a quand même c'est marqué par le sceau de la cohérence. Après, on aime ou on n'aime pas le jeu qui est déployé, mais il y a une cohérence. Et il n'a pas arrêté de dire ces dernières années, même depuis sa prise de fonction, il faut jouer pour être appelé, et c'est la moindre des choses. Alors, tu l'as dit, entre peu jouer et quand même accorder la confiance, il l'a fait parce qu'il y a la logique de groupe, il connaît les joueurs, et il l'a fait notamment avec Giroud, mais là, un joueur qui n'a plus joué depuis le 30 novembre, et s'il devait rester dans cette configuration-là, de jouer, allez, si on arrivait à une dizaine, douzaine de matchs sur la saison, c'est inconcevable dans son esprit.
Je parie avec tout le monde ici une frite maillot carbonade qu'il va y être, il va y aller pour les raisons.
Mais il faut savoir combien de temps il va jouer.
Alors, mais moi, pour je les peux raisons, discuter non, avec c'est toi, marrant mais... parce que qu'on dise qu'il sera là ou pas là, c'est pour les mêmes raisons que dit Sébastien. C'est-à-dire que s'il n'est pas là, ça va chambouler tout le schéma tactique, il doit trouver nos solutions. Oui, donc, comme dit Sébastien, ça va perturber. Et à l'inverse, s'il est là, tu sais qu'il va le faire jouer et que peut-être ton équipe, elle va quand même.
Mais c'est pour ça qu'il va jouer. C'est pour ça que la question.
Mais il va jouer
aussi,
des matchs amicaux, il va jouer des matchs amicaux.
La question aussi pour Didier Deschamps, c'est est-ce qu'il vaut mieux qu'il change tout son schéma de jeu qui est battu depuis quoi, maintenant 4 ans autour de l'Union.
C'est compliqué,
bien sûr que non.
Ou alors de faire tout en sorte, sur les 3 derniers mois de la saison, de préparer un plan de préparation physique spécialisé pour Olivier Giroud, pour qu'il arrive en forme à l'Euro. Et dans la dernière interview qu'il fait avec RTL, c'est ce qu'il laisse entendre, dit Deschamps. C'est qu'il dit le curseur du temps de jeu, oui, ça dépend où on met le curseur, ça dépend du joueur, etc.
Oui,
donc il anticipe un peu déjà ce qui peut se passer sur la fin de la saison.
Il va le prendre, il va le
préparer.
Moi,
je pense qu'il va lui faire un plan et...
Mais il faut qu'il joue un peu.
Mais il faut qu'il joue un minimum.
C'est-à-dire que le haut niveau...
Il faut qu'il joue un match sur trois.
C'est pas par hasard, à un moment... Si tout le monde vous explique que quand vous vous retrouvez sur un terrain de football face à 11 joueurs qui sont préparés, qui jouent au football tous les 3 ou 4 jours, vous êtes en difficulté. Et donc, il faut absolument un tout petit peu.
Et là, ce que révélait Bruno tout à l'heure sur l'Europa League que jouait Chelsea la semaine dernière, il avait été l'un des meilleurs buteurs.
Ah bah oui, c'est le meilleur buteur de l'Europa League.
Surtout qu'il était au bout de la compétition.
Là, il est en Ligue des Champions, il n'y a rien.
Donc, il jouait quasiment un match par semaine ou au moins tous les 10 jours. Ouais, donc, c'était suffisant.
David Aiello, Yahoo Sport, donc 39 buts, 97 sélections en bleu pour Olivier Giroud. Moi, j'ose aussi croire que Olivier Giroud sera appelé, même si les signaux de Didier Deschamps il y a quelques mois étaient un petit peu négatifs, fallait trouver un club, etc. Mais on ne peut pas se passer d'un homme qui, quand il rentre, il marque.
Bien sûr que sur le profil, sur ses stats, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais encore une fois, là, la situation, elle est gravissime. C'est un joueur qui n'est plus dans le groupe.
Gravissime.
Elle est gravissime pour lui. David, mais si, mais il a plus joué depuis 30 novembre, il est plus dans le groupe.
Elle n'est pas plus grave qu'il y a 2 mois.
Ça fait 2 ans qu'on se rapproche. Sauf qu'il y a 2 mois, on se disait, il y a le mercato.
S'il se met à jouer un petit peu, on est d'accord que ça sera jouable. Mais là, la situation,
ça fait 2 ans. Que tous les observateurs ont le même discours en disant ça va être compliqué, il joue pas beaucoup, il va plus aller en équipe de France.
Mais
et chaque fois qu'il vient, il met des buts
et tout le monde dit c'est pas la même chose.
C'est le seul qui met des buts. Bah, je suis désolé, moi si je suis Didier Deschamps, je le prends.
Ce qui va être intéressant, c'est sur les prochains matchs de l'équipe de France. Est-ce que Didier Deschamps va anticiper le problème en faisant jouer son équipe différemment avec Giroud sur le banc?
Bah en sachant depuis hier qu'il ne changera pas de club.
Ou est-ce qu'il va lui donner du temps de jeu en disant je prépare dès maintenant, je le fais débuter un match sur les deux comme il a fait depuis le début de la saison, pour lui donner du temps de jeu et préparer l'Euro.
Alors on revient dans quelques instants pour conclure avec Olivier Giroud avant les infos. On va passer par le Parc des Princes, Nicolas Georgerot, toujours 3-0 pour les Parisiens contre Montpellier.
Oui, la 57e, 3-0, le but de Sarabia, le but de Di Maria sur une passe de Sarabia et ensuite un but contre son camp alors que Mbappé en face à face avec Carvalho pour le 4-0 du Paris Saint-Germain. Le but de Kylian Mbappé bien lancé dans la profondeur et qui vient effacer d'un petit crochet Mathis Carvalho, le troisième gardien de Montpellier, 20 ans, et qui donc derrière vient marquer facilement 4-0 le but de Mbappé. Et juste aussi une précision, parce que c'est une image qu'on n'avait pas vue de la tribune de presse et pour cause c'était dans le tunnel au moment du retour des équipes. Ça explique aussi les mots de Tourelle à Neymar. Neymar s'est un petit peu frictionné avec le quatrième arbitre sur les 45 premières minutes, ce qui s'était passé. Donc c'est aussi pour ça que Tourelle voulait le calmer au moment de rentrer sur la pelouse en seconde période. 4-0 pour le PSG.
Merci Nicolas Georgerot. Effectivement, on avait vu un Neymar assez véhément à un moment donné. D'ailleurs, quand il a reçu ce carton jaune donné par l'arbitre, on revoit le but d'Mbappé, 4-0. On va conclure sur Olivier Giroud. Stéphane Powels, donc pour vous, l'Euro, c'est acquis pour Olivier Giroud, même s'il joue 10 minutes jusqu'au mois de juin.
Mais c'est acquis parce qu'il n'y a pas 36 solutions. Pour les raisons que dit Bruno, c'est que tactiquement, je ne vois
on
pas.
On ne peut pas appeler Moussa Dembélé.
Mais je ne vois pas Didier Deschamps changer tout son système de jeu. Il travaille comme ça depuis tout le temps. Et donc, je pense qu'il va le préparer, Bruno, dans les matchs amicaux de l'équipe de France et peut-être avec un préparateur physique supplémentaire.
Parce que si Dembélé, le Lyonnais, claque à chaque match et puis qu'il est chaud et qu'il joue beaucoup.
Mais il sera dans le groupe, il sera pris. Il sera avec. Il n'y a pas photo.
David Aiello, Yahoo Sport.
Comme disait Bruno, c'est vrai que ça va être intéressant de voir ce qui va se passer au mois de mars. Moi, j'ai tendance à croire que Didier Deschamps va faire l'inverse, c'est-à-dire tester cette équipe de France sans Olivier Giroud.
Bruno Constant.
Moi, je pense qu'il va faire les deux. Sur un match sur deux, il va tester une nouvelle organisation et sur l'autre, il va donner du temps de jeu. Et puis, je sais pas, ce qui t'a organisé des matchs amicaux à huis clos, à Clairefontaine, à un mois de l'Euro pour mettre Giroud en jambe.
Il y a des matchs amicaux. On va rappeler que la France va recevoir l'Ukraine au Stade de France et la Finlande au Groupama Stadium à Lyon.
Et Belfort aussi, entre les deux, pour faire jouer Giroud.
Sébastien Tarrago de l'équipe. Donc Olivier Giroud, c'est pas certain pour vous?
Si c'est zéro minute de jeu jusqu'à la liste des Bleus, oui. S'il joue un petit peu, il ira. Mais il ne faut pas exagérer.
Et est-ce qu'on peut penser qu'un entraîneur comme Frank Lampard va se dire...
Bon, il s'en fiche complètement.
Voilà, c'est ça. Ouais,
il l'a montré. Et d'ailleurs, je peux...
Il l'avait déjà montré avant un certain match.
Oui, je peux le comprendre. Alors, il n'arrête pas de répéter qu'il a beaucoup de respect et de considération pour Olivier Giroud. Bon, bah, peut-être, mais qu'ils vont peut-être au restaurant ensemble. Mais en revanche, quand il s'agit de parler football, il y a moins de monde.
Ouais. Bruno Constant, donc, vous qui connaissez bien l'Angleterre, Chelsea, il y a des grosses échéances à jouer. Olivier Giroud peut... Bah, c'est un peu comme si le parallèle avec Cavani, il est là. Il faudrait une tonne de blessés pour que Giroud rentre et qu'il soit le héros de la saison.
Là, la question en l'occurrence, c'est Tammy Abraham qui est blessé à la cheville. Le staff médical a forcé un peu avec Lampard, forcé pour qu'il joue ce match-là, qu'il soit prêt à jouer ce match-là contre Leicester et qu'il profite de la trêve hivernale qui se profile. Là, il y a 10 jours, 11 jours de trêve hivernale en Angleterre, qui se repose et voit ce que ça va donner, parce qu'après c'est Bayern Munich qui arrive en Ligue des Champions. Ce sera deux matchs importants, ils peuvent pas jouer qu'un joueur blessé.
En tous les cas, c'est vrai qu'on surveillera beaucoup plus, peut-être pas les matchs que Giroud va jouer, les buts qu'il va marquer, mais surtout les réactions de Didier Deschamps par rapport au prochain match, s'il va l'aligner ou s'il va réussir à trouver un autre système. Mais
Didier Deschamps, il va toujours au bout de ses idées.
Oui, dans sa tête.
Didier Deschamps, depuis le début dans sa tête, c'est que effectivement il faut qu'il joue un peu, mais même si c'est un peu, il le prendra. Deschamps, c'est pas un mec qui va tout rénover comme ça en deux semaines.
On se retrouve dans quelques instants. Nous évoquerons le Brexit et ses conséquences sur le football, le transfert, le prix des joueurs, le salaire, les joueurs qui peuvent venir ou ne plus venir parce qu'il faudra un permis de travail. Nous nous poserons la question également de savoir ce qu'il reste du mondial féminin. Nous sommes avec Sébastien Tarrago de l'équipe, Stéphane Powels, Bruno Constant et David Ayello de Yahoo Sport. A tout de suite sur RTL.
RTL, on refait le match.
18h.
RTL à la seconde près, il est 19h. L'information, Alexandre de Saint-Aignan. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Denis, bonsoir à tous. Le gouvernement reconnaît une erreur face à la polémique sur le congé en cas de deuil d'un enfant. La proposition de le rallonger de 5 à 12 jours a été rejetée par l'Assemblée cette semaine. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, annonce que cette erreur sera corrigée. Quelques minutes plus tôt, Emmanuel Macron lui-même avait rappelé le gouvernement à l'ordre en lui demandant de faire preuve d'humanité. Je cite, les appels à revoter cette proposition se multiplient ces derniers jours de l'extrême gauche jusqu'au patronat. La République en marche prête à se désister pour faire battre l'extrême droite aux prochaines municipales. C'est en tout cas ce que réclame le numéro 1 du parti pour le second tour. Si les candidats de la majorité arrivent en troisième position, Stanislas Guérini leur demandera de se désister ou de fusionner leur liste, rappelant le combat fondateur mené contre le Rassemblement National. Le corps d'une femme retrouvée dans le lac Léman ce matin en Haute-Savoie, elle n'a pas encore été identifiée. Aucune thèse n'est pour l'instant privilégiée par les gendarmes. Il y a deux semaines déjà, le corps d'un homme d'une soixantaine d'années avait été retrouvé dans le lac, même secteur. L'enquête avait cette fois privilégié le suicide ou l'accident. Plusieurs gilets jaunes interpellés aujourd'hui pour ce 64e samedi de manifestation. Quelques tensions ont éclaté notamment à Montpellier ou à Toulouse cet après-midi. Une garde à vue polémique à Paris. Trois lycéens doivent être déférés devant la justice après le blocage de leur lycée. Ils sont accusés d'avoir allumé un feu de poubelle. Ils pourraient être écopés d'une mesure de réparation pénale à visée pédagogique. Parents d'élèves, syndicats d'enseignants et plusieurs élus d'extrême gauche se sont mobilisés aujourd'hui pour réclamer leur libération. Un deuxième avion va rapatrier des Français de Chine. Il a décollé hier soir de Paris avec des équipes médicales et des psychologues à son bord. On ne sait pas encore où il pourrait atterrir à son retour en France. Quelques 200 ressortissants français sont déjà arrivés hier dans le sud de la France où ils vont rester cloîtrés pendant les deux prochaines semaines en quarantaine. L'ambiance est détendue. La Croix-Rouge a même organisé ce matin un match de volley pour les enfants, tous porteurs d'un masque. Il y a 6 cas de coronavirus actuellement en France. Alors qu'en Chine, là, l'épidémie a fait plus de 250 morts, près de 12 000 personnes sont contaminées. Le Brexit, un retour à la liberté pour le Royaume-Uni et un échec terrifiant pour l'Union européenne. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui Marine Le Pen à Lille, la présidente du Rassemblement national Merkel qui a appelé l'Europe à se transformer vers une alliance européenne des nations. La météo pour demain, douceur et soleil au sud. Entre l'Aquitaine, la région PACA et la Corse, le ciel va rester bien chargé sur le reste du pays, avec des pluies souvent faibles, sauf dans l'est où on attend de bonnes précipitations de la Franche-Comté aux Alpes et aux Lyonnais. Attention au fort risque d'avalanche demain dans les Alpes du Nord. La Savoie et la Haute-Savoie ont été placées en vigilance orange. Les températures pour demain, il fera 13 degrés à Grenoble et à Lille, 14 à La Rochelle et à Besançon, 15 à Paris, 16 à Nice, 19 à Nîmes, 20 degrés à Toulouse et 22 à Perpignan. Il est 19h, bientôt 3 minutes sur RTL. La suite, c'est avec vous, Denis Balbir.
Merci Alexandre de Saint-Aignan. On se retrouve très certainement tout à l'heure à 20h. Nous évoquerons dans quelques instants, jusqu'à 19h30, le Brexit et ses conséquences dans le football, les transferts, les joueurs qui peuvent venir ou non. Et nous nous poserons également la question de savoir ce qu'il reste du mondial féminin. Nous sommes avec Sébastien Tarago de l'équipe, Bruno Constant, Stéphane Powels, notre ami belge, et David Ayello de Yahoo Sport. A tout de suite sur RTL.
Denis Balbir sur RTL. On refait le match.
Passez une bonne soirée sur RTL.
On a tellement de choses à se dire. Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Le Brexit, Sébastien Tarago de l'équipe, Bruno Constant, Stéphane Powels, David Ayello de Yahoo Sport, Bruno Constant, donc les Anglais.
Les miens.
Ça n'est pas mon ami.
Sont sortis de l'Europe. Quelles conséquences sur le football ?
Elles sont encore très incertaines, parce que ça va dépendre évidemment des négociations, plein de négociations entre l'Union Européenne, l'Angleterre, entre la Fédération Anglaise, la Première Ligue, l'UEFA, la FIFA. Et notamment, le premier problème, ça va être les permis de travail, qui permettent aux joueurs étrangers, aujourd'hui les joueurs étrangers ou non européens, avaient besoin d'un permis de travail pour jouer en Angleterre. Permis de travail, ça dépendait évidemment de leur nationalité, leur nombre de sélections avec leur équipe nationale, le rang de cette équipe nationale au niveau de la FIFA. Donc il y a plein de critères qui rentrent en ligne de compte. Et à partir de maintenant, enfin de là, dans les mois qui vont venir, je crois que ça va rentrer en ligne de compte à partir de janvier 2021. Les joueurs européens seront considérés comme des joueurs étrangers en Première Ligue. Donc là, ça va poser problème au niveau des transferts. C'est là où vont partir les négociations entre la FIFA, la Première Ligue et la FA. La Fédération Anglaise et la Première Ligue sont un peu en bisbille, en contentieux, parce que la Fédération Anglaise veut pousser le nombre de joueurs britanniques à évoluer dans les effectifs de clubs anglais. Ils veulent abaisser le nombre de 17 à 12 joueurs non britanniques au sein de l'effectif. Donc là, ce serait évidemment un coup dur. Les clubs anglais, notamment les plus importants, s'opposent à ça. L'autre élément important, ça va être le niveau de la livre sterling. S'il y a une dévaluation de la livre sterling, et ça a déjà été le cas sur les dernières années, un club comme Manchester United n'est plus le club le plus riche du monde à cause de cette dévaluation. Donc s'il y a une baisse, une dévaluation de la livre, les clubs anglais vont perdre un peu du pouvoir d'achat. Et puis voilà, ça fait déjà beaucoup de soucis, beaucoup de questions qui vont intervenir dans les 12 mois à venir, parce que la transition va prendre à peu près un an. Mais dans tout ça, je ne pense pas que la Première Ligue va être touchée, ni la Bundesliga, qui est très forte économiquement. La plus touchée, ça pourrait être par exemple la Ligue 1. Parce que la Ligue 1, c'est le plus gros exportateur de joueurs en Première Ligue. Et forcément, si les clubs anglais ont moins de moyens financiers, ils pourront recruter moins en Ligue 1.
On va revenir à ce débat justement sur le Brexit. Merci pour toutes ces explications, Bruno Constant. On va au Parc des Princes. Nicolas Georgerot, le PSG qui mène 5-0 contre Montpellier. Mais il y a aussi des faits intéressants. L'entrée de Cavani et la sortie d'Mbappé qui n'avait pas l'air très très content.
Exactement. Le but de Kurzawa effectivement pour le 5-0. Ensuite, les entrées de Icardi et de Cavani, donc pour Mbappé et Sarabia. Et puis effectivement une séquence qui a duré au moins 30 secondes où Mbappé en discussion avec Tourelle qui était en train de lui expliquer sa décision, mais Mbappé qui n'était pas du tout satisfait de sortir et qui a fait un petit geste de la main sur le thème un peu cause toujours et qui est allé prendre place donc sur le banc du Paris Saint-Germain.
Et nous on va pas sortir de l'Europe mais du Brexit de 2 secondes. Sébastien Tarago, l'équipe, une réaction sur Mbappé ?
Non, c'est embêtant parce que il fragilise son entraîneur en se comportant ainsi, puisque son entraîneur essayait de lui parler et lui essayait de partir.
C'était un peu chaud hein, quand même, j'ai trouvé. Il n'y a pas de geste, mais
c'est-à-dire que Kylian Mbappé n'avait pas du tout envie de parler à son entraîneur, qui lui avait beaucoup envie de lui parler.
Ouais. Parce
que
c'est pas la première fois.
C'est un peu ennuyeux, ça fragilise Thomas Tuchel. On n'imaginerait pas ça avec l'entraîneur de Liverpool, avec l'entraîneur de Manchester City. C'est embêtant. Alors voilà, pour lui, Kylian Mbappé, il appartient à la catégorie des Lionel Messi, des Cristiano Ronaldo. On ne sort pas quand on est Kylian Mbappé. c'est problématique.
Bruno Constant,
c'est pour ça que Cavani en plus, vous voyez.
Non, ce qui est d'autant plus gênant, c'est que c'est arrivé il n'y a pas si longtemps et qu'on a l'impression qu'il n'y a pas appris parce qu'il y a eu beaucoup de réactions, de conséquences à ce geste-là la dernière fois. Mmh. Et que là, il répète la même chose alors qu'à 5-0 à domicile, face à Montpellier.
C'est quand même Powell. Bah,
comme dit Sébastien, ça fragilise son entraîneur. Et puis, secondo, je ne vois pas pourquoi il doit râler à la 70e minute, c'est 5-0. Et moi, je pense qu'il a attrapé. C'est dur ce que je vais vous dire, hein, et Dieu sait, le joueur qu'il est, je pense qu'il est un peu le boulard, quoi. Je pense
que Kylian Mbappé. Est-ce qu'il ferait la même chose au Real ou à Liverpool?
Je pense qu'il a attrapé un peu le boulard. Il aurait pas fait ça quand il était à l'AS
Monaco. Après, Tourelle, il fait une erreur, à mon avis, de management. C'est-à-dire qu'il veut, discuter. Non, il y a un moment, l'image, ça compte. Oui. Et donc, tu le sors, il n'est pas content, vas-y. Laisse-le partir, t'as pas à te justifier. Ouais. Tu es le manager, toi qui décides.
Exact.
Et après, en revanche, le lendemain, le surlendemain, tu discutes avec lui dans l'intimité du vestiaire.
Très juste. Du très grand Sébastien Tarrado de l'équipe ce soir.
Rémi Deyelio, je pense que la réaction de Tourelle, elle est venue parce que dès le départ, en fait, dès qu'il y a eu le nom de Mbappé, on l'a vu traîner les pieds pour sortir. Et je pense que Tourelle, effectivement, n'a pas apprécié, mais je suis entièrement d'accord avec Thomas Tourelle.
Je vous interromps deux secondes. Il y a une image de Mbappé qui fait une tête d'enterrement, comme si il sortait.
Comme si c'est le drame de sa vie.
Ouais, comme
c'est.
Non, mais là, c'est un peu.
Non, mais vous savez, tout à l'heure, on a fait le débat sur Cavani. Et tout ça, il sort. Cavani. Enfin, joue. Tout ça n'est pas bon parce que pour les supporters, ce genre d'attitude, Mbappé, ça le fragilise. Ça le fragilise. Ah, je pense.
Là, fragiliser, je sais pas.
Ah, ben moi, je pense qu'il y a un moment, il y a quand même une partie de supporters.
Ça le fragilise pas, mais disons que ça n'ajoute pas à sa bonne image qu'il avait jusqu'à présent.
Il avait une excellente image et depuis quelques temps.
Toujours, mais bon.
Bah, depuis quelques temps, personne n'ose le dire. Je sais que c'est Kiki, c'est Kylian. Comme dit Philippe Sanfourche, mais Kiki, c'est Kylian. De temps en temps, ils ont des attitudes comme ça, moi, qui me gonflent un peu.
Il a une bonne image, mais il y a quand même un décalage entre ses performances sportives et la cote qu'il a. Je veux dire, aujourd'hui, Kylian Mbappé, c'est pas l'idole du Parc des Princes. Alors qu'il a des performances sportives absolument incroyables. Et je pense qu'effectivement.
C'est qui l'idole alors?
Bah, c'est Cavani l'idole.
Vous
n'avez pas mis les pieds au Parc des Princes.
C'est pas vous.
Ça pourrait, ça devrait d'ailleurs.
C'est la vie. Allez, sois honnête.
En l'occurrence, je pense que cette accumulation de petites erreurs de communication, il y avait évidemment cette prise de parole lors des trophées UNFP, ce genre d'attitude-là qui se répète, ça nuit un petit peu, effectivement, je pense, à son image qui, par ailleurs, sur plein d'autres aspects, peut être extrêmement positive.
On a réagi, hein, parce que c'était vraiment l'actualité, et Mbappé à l'image continue
mais surtout
à, faire,
que Paris joue
à
bien.
Faire la tête, on va repasser au Brésil.
Ils sont en pleine confiance, ils vont jouer la Champions League bientôt.
Quand, quand on le voit là, je trouve que ça fait enfant gâté. Il y a 5-0, il a marqué, il y a un gros match qui arrive, il sort, il fait la tête.
On revient à nos moutons, entre guillemets. David, les pauvres Anglais sont pas des moutons. David Aiello, Yahoo Sport, le Brexit alors. Votre sentiment
le Brexit, bon, déjà Bruno a livré une analyse assez complète de la situation. Ce que je voudrais ajouter, c'est que une fois qu'on a posé tout ça, ça reste quand même du business. Donc effectivement, sur ces histoires de permis de travail, de visa, déjà il y a des discussions bilatérales qui vont être menées. J'imagine pas un blocage. Finalement, les blocages qu'il peut y avoir, c'est des discussions entre la Première Ligue, donc c'est en fait l'équivalent de la Ligue en France, et la Fédération, qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts. La Fédération voit l'intérêt de l'équipe nationale, elle voit peut-être à plus long terme. La Ligue, elle pense le business tout de suite. Donc là, effectivement, il peut y avoir des zones de frottement. Mais au bout du compte, ce qui va se passer, c'est qu'on ne peut pas refuser des permis, enfin, je veux dire, au niveau gouvernemental, etc. Culturellement et économiquement, la Première Ligue, c'est quelque chose d'extrêmement important en Angleterre. Donc je ne vois pas un blocage possible.
Stéphane Powell.
À notre regard, et forcément, moi j'ai du principe de ne pas parler de dossiers que je ne connais pas bien. Et je ne le connais pas bien. Et ce championnat anglais, je le connais footballistiquement, mais pas pour les raisons que nous dit Bruno, qui est bien plus spécialiste. Moi, je regarde un autre. L'autre chose, le Brexit pur, on nous dit c'est le Brexit, mais il faut savoir quand même, et vous êtes bien au courant, qu'actuellement le Brexit, c'est toujours pas signé, décidé. Il y a un Brexit qui est installé, que l'Angleterre a décidé, mais au niveau de la Commission européenne, ils n'ont toujours pas, notamment dans le libre-échange, tout ça n'est pas encore fait. Et donc, je me dis que si ça traîne pour cela, je serais très étonné que pour les accords qui puissent être pris dans le football, ça soit demain. Donc j'ai l'impression qu'on parle d'un débat aujourd'hui, mais comme
une transition,
David,
il y aura une transition pendant à peu près un an.
Elle sera beaucoup plus longue. Je pense que les transferts vont se faire pour les raisons que dit David, c'est du business, et que les joueurs auront envie de jouer en Première Ligue parce que c'est du football. Et même s'il y a une dévaluation monétaire, je pense que les mecs iront quand même jouer en Angleterre. C'est un avis personnel.
Sébastien Tarrago, l'équipe. Elle n'est pas si sûre que ça.
Non, tout a été dit, mais il y a une forme d'inconnu très, très forte quand même. Hein, donc même pour les gens qui sont très, très pointus sur ce dossier, il y a cet inconnu-là. Je peux juste dire, je sais que ça va à l'encontre de tout, mais moi j'aimerais qu'il y ait moins de joueurs étrangers en Angleterre. Je suis très nostalgique.
Pas qu'en Angleterre,
je suis très, très, très nostalgique.
Ça renforcerait la Liga?
Non, non, mais je m'en fiche. Je suis très nostalgique d'un
pourquoi
football.
Pourquoi vous aimeriez
la limite des finir, j'ai l'impression que pardon, c'est pardon. Une consoeur qui est à votre place.
Essayez de me
laisser finir.
Mais c'est bizarre, ça va venir tout à l'heure. Mais, pour aller faire la bise.
Mais c'est juste que moi, j'aimais le football où il y avait des grands joueurs dans beaucoup de clubs. Voilà. Et dans les clubs des pays de l'Est, dans les clubs français. Alors là, il y a le Paris Saint-Germain, mais dans les clubs belges, quand le football belge existait encore.
Il y a longtemps.
Mais oui, mais voilà. Donc, je sais que ça va à l'encontre de tout ce qui se passe aujourd'hui, bien sûr. Mais moi, je suis nostalgique.
Mais le pire, c'est qu'il a raison. Le pire, non, mais en dehors de là, du vrai problème du Brexit, le pire, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme Sébastien. Et moi, un peu aussi, c'est de me dire, il y a un moment, tous les bons. Tu sais qu'il y a un moment, je prends l'exemple, il parle de la Belgique. Dès qu'il y a un joueur qui est vraiment un petit peu au-dessus, il n'a pas 36, tu te dis, ça, c'est bon. Enfin, peut-être pas les tout grands, mais les moyens. Dit, ils vont aller en Angleterre.
Bah non. La preuve, dernier exemple en date, c'est Haaland qui a signé à Dortmund.
Oui, d'accord.
C'est un contre-exemple.
Et Bruno, nous en Belgique, systématiquement, tu dis, il va aller en Angleterre.
Ben Yedder n'a pas signé en Première Ligue. C'est un très bon attaquant. Il y a eu des clubs, il y a Tottenham qui s'est penché sur le cas. Non, je pense pas.
Alors, je vais te dire un truc, Bruno.
Sébastien Tarago de l'équipe.
Si Tottenham avait fait une vraie offre, une vraie proposition, je suis prêt à parier très gros sur le fait qu'il y serait allé. Non, il parle de Ben Yedder. Ben Yedder, donc il aurait choisi Monaco parce que c'est le club de son enfance qui ne jouait pas de Coupe d'Europe et il aurait refusé Tottenham.
Rapidement, David et Yellow.
Il y a juste quand même pour nous, pour la Liga, il y a quand même un enjeu qui va être de savoir est-ce qu'effectivement ça va rester dans la situation actuelle. Je parle là sur le long terme parce que là on sait que jusqu'à fin 2020 ça va rester comme ça. Et auquel cas, les clubs français vont continuer à vendre leurs joueurs en masse en Première Ligue. Ou est-ce qu'effectivement, s'il y a des quotas notamment en Première Ligue, est-ce que les clubs français vont moins vendre, donc économiquement gagner moins d'argent, mais en même temps garder leurs meilleurs joueurs? Et ça peut être intéressant aussi pour le football français.
Par contre, ça peut être ça peut être quelque chose de positif dans le business du foot, dans les transferts. C'est qu'à un moment, tout le monde sait que tu pouvais pas lutter, puisqu'en Angleterre, on donnait des salaires de dingue avec des conditions de dingue, et qu'à un moment, tu pouvais pas lutter. Peut-être que maintenant, tu vas pouvoir commencer à lutter.
Ça peut rééquilibrer les
forces financières.
Pour coïncidence, quand même, au moment du Brexit, de la signature du Brexit, le mercato d'hiver en Angleterre était le plus faible depuis 2010. Il y a eu moins de 30 millions de livres dépensés ce mois de janvier.
On se retrouve, dernière ligne droite de On refait le match. Nous évoquerons le foot féminin. Qu'est-ce qui reste de ce mondial féminin? C'est le week-end, figurez-vous, ce week-end du sport féminin toujours. Soyons attentifs à toutes ces femmes qui courent après le ballon. A tout de suite sur RTL avec Sébastien Tarago de l'équipe, Bruno Constant, Stéphane Powels et David Ayello de Yahoo Sport. A tout de suite sur RTL.
RTL, on refait le match.
RTL, on refait le match
avec Denis Balbir.
Nous allons aller au Parc des Princes avant de parler du foot féminin. Paris Saint-Germain, Montpellier avec Nicolas Georgereau. Toujours 5-0, Nicolas. Une bonne entrée de Cavani, une bonne entrée d'Icardi. Mbappé qui fait la gueule.
Oui, c'est bien résumé. Après, entrée pour l'instant quand même relativement timide de Icardi et de Cavani. Pas vraiment de situation. Tout à l'heure, Cavani a eu un coup franc, mais c'est allé directement dans le mur. 11 minutes encore à jouer. 5-0, effectivement, le dernier buteur. Courzava tout à l'heure à la 65e.
Et vous savez, sur Mbappé, rapidement, Sébastien, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment un garçon comme Edinson Cavani, il accepte ça. C'est-à-dire qu'Edinson Cavani, même si je pense qu'il est un tout petit peu cuit, à un moment, il a fait des choses dans le football. Et ça mérite le respect. Le respect, ce n'est pas le faire jouer des matchs pour lui faire plaisir. Non, le respect, c'est d'avoir une attitude convenable lorsque tu lui cèdes ta place. Et moi, je suis Edinson Cavani, je rentre dans le vestiaire.
Fracasse.
J'ai compris. Non, mais c'est vrai.
Mais ouais, c'est vrai, c'est un manque de respect.
Après, Mbappé, il peut essayer d'aller voir son entraîneur, lui dire j'aime pas sortir coach, moi je suis un grand joueur, je veux marquer. Ça, je le comprends, il n'y a pas de souci. Il marche à ça. Sinon, ils ont des personnalités à part, sinon ils ne seraient pas aussi forts. Mais ne montre pas de l'irrespect à ton coéquipier, juste ça.
Une espèce de rivalité aussi, je pense, même si on l'interprète comme ça, avec Neymar. Dire qu'à un moment, Neymar sort pas, lui il sort, ça le gonfle. Mais alors, c'est ça, il y a une espèce de nervosité.
La précision, quand même, c'est que quand Mbappé sort, c'est Icardi qui rentre.
Oui, pardon, Icardi, ouais. Excuse-moi.
Ah, mais ça vaut quand même. Hein.
Excuse-moi.
Oui, c'est un peu pareil dans ce sens.
Mais c'est pareil, je veux dire, si c'était, j'en sais rien, un jeune du centre de formation, c'est pareil.
Alors, on va revenir à cette opération lancée en 2014. Sport féminin toujours, c'est le week-end du sport féminin toujours. Que reste-t-il de ce mondial féminin, Bruno Constant? On avait assisté. On avait assisté à des
beaux matchs. C'est pour toi, Bruno.
C'est pour toi, Bruno. De femmes, on te une équipe de France qu'on retrouvera sur les chaînes du groupe M6. Je vous le rappelle, avec le tournoi de France du 4 au 11 mars, l'équipe de France sera opposée notamment aux Pays-Bas, au Brésil. Ce sera à Calais et à Valenciennes. Bruno Constant, donc que reste-t-il de ce mondial?
Pas grand-chose. Pas grand-chose, parce qu'on regarde les matchs. Alors, il m'est arrivé de regarder des matchs, parce que Canal en diffuse et que je suis tombé par hasard dessus. Et je ne sais plus, c'était un PSG-Metz ou Lyon-Metz. Il y avait,
là, je vous parle des Bleus, de l'équipe de France.
Oui, non, mais ça, il y a les clubs. Enfin, on attendait quand même un effet Coupe du Monde.
Question, hein, Denis.
On attendait un effet Coupe du Monde, notamment sur le foot féminin, donc les clubs qui prennent le relais. Et pour l'instant, il est retombé très bas, parce qu'on est... Lyon, si ça a légèrement augmenté, on est autour de 1000 spectateurs par match. C'est extrêmement faible.
Au niveau performance, par contre, Lyon est toujours là.
Les grands clubs sont toujours là parce qu'ils sont toujours, ils dominent tellement leur championnat. Mais par exemple, je vais faire le comparatif avec l'Angleterre. Football anglais, il y a un énorme essor du football féminin en Angleterre.
Ouais.
Ils ont battu un record de la sélection anglaise, a fait 77 000 spectateurs à Wembley en octobre contre l'Allemagne.
Oui, mais quand c'est énorme essor
extraordinaire.
Sur
les clubs anglais,
les clubs anglais
de foot féminin font des nombres de spectateurs autour de 20 000. Le derby de Liverpool, c'était 20 000. Le derby de Manchester, c'était plus de 30 000.
Mais la moyenne est très faible.
Oui, mais on n'a même pas ça en France.
Donc ça sur PSG Lyon, quoi, deux fois par an.
Deux fois par an.
Juste pour équilibrer, juste pour équilibrer. Bien sûr qu'on s'attendait à un gros coup derrière, de motivation, de tout. Enfin, certain.
Moi, je vais vous dire deux choses. Le nombre de licenciés est en hausse.
Je vais être positif, c'est que dans une grande émission de nos collègues Canal Football Club, on a dans cette émission-là maintenant un petit passage féminin au monde des images. Donc déjà, je trouve que c'est déjà dans l'esprit.
Oui, enfin, en même temps, ils ont les droits du foot féminin. S'ils les avaient, t'inquiète pas qu'ils le montreraient pas.
Denis, il y a 10 ans, on n'aurait pas de l'image.
Ils ont fait la démarche,
je ne cire pas les pompes.
Pourquoi? Parce que c'était la mode, c'est fin de
Powell. Vous demandez s'il y a eu un essor. Je vous dis que dans les mentalités maintenant, eh bien, même dans des émissions comme ça, on met des images. Ça veut dire qu'il faut positiver. Moi, je pense que le gros problème, c'est le fossé, c'est économiquement parlant, c'est le fossé entre le PSG et Lyon, où il y a beaucoup de pognon pour ces équipes féminines, et donc le niveau est haut, et qu'en bas, tu joues contre des équipes de quartier, où tu vois à chaque fois, notamment
Bordeaux,
dans cette émission. On joue dans cette fameuse émission, tu vois des matchs, ils viennent nous raconter le match, il y a eu des 7-0, des 8-0, des machins. Donc c'est ça un peu le problème, c'est ce fossé entre les très forts et les autres. Et tant qu'on ne va pas équilibrer le niveau de jeu de tout le monde, on va être en difficulté pour faire la promotion du foot féminin.
Non, David Ayello, Yahoo Sport.
Je veux bien, mais soyons patients quand même. Le football féminin.
Ça vous va bien, ça de dire.
Non, mais c'est vrai. Il a raison.
Si vous prenez l'évolution du football masculin, ça s'est fait sur des dizaines d'années quand même. Donc vous voulez pas que le football féminin, comme ça, du jour au lendemain, remplisse les stades.
Je vous pose une question.
Je vous le dis. En tout cas, il faut quand même savoir que voilà, ça va prendre du temps. Effectivement, il faut qu'il y ait des démarches. Il y a aujourd'hui cette journée consacrée au sport féminin. Certains médias qui s'intéressent et qui diffusent de plus en plus les belles affiches. Voilà, ça va prendre du temps à ce que des générations comme ça s'intéressent de plus en plus au foot féminin.
Après,
et remplissent les stades.
Une petite parenthèse importante pour l'essor, c'est qu'aujourd'hui les clubs professionnels de Ligue 1 notamment sont obligés d'avoir une équipe féminine, et c'est le cas notamment en Angleterre aussi, ils ont davantage de moyens, ces clubs-là ont davantage de moyens, ce qui n'était pas le cas avant quand c'était des clubs amateurs.
Il y a une grosse poussée du foot féminin en Italie aussi, puisque l'équipe italienne a été un petit peu l'équipe surprise de l'ancienne Coupe du Monde, la Coupe du Monde qui vient de se dérouler, et c'est vrai qu'il y a pas mal de licenciés qui arrivent. Sébastien Tarago, l'équipe.
Moi je partage tout ce qui a été dit, mais autant j'aborde la démagogie qu'il y a autour du football féminin, notamment sur les ondes, ici dans les matinales, là à la télévision, notamment de la part des hommes et des femmes politiques, et des autres d'ailleurs, de nos confrères aussi, et de nos consoeurs, parce qu'on a l'impression que c'est un combat contre les hommes. Moi ça me fatigue,
faut
arrêter, c'est pas un combat contre les hommes, on est ensemble, je crois, j'espère. Et... autant, cette Coupe du Monde, elle a été un curseur, elle a été un premier pas socialement. Voilà. Et je pense que ce n'est rien sur le plan footballistique, sur le plan sportif. Vous l'avez dit, l'Olympique Lyonnais, par exemple, c'est 50 buts pour, 4 buts contre depuis le début de saison. Bon, c'est un peu grotesque. Mais socialement, pour toutes les petites filles, pour les plus grandes aussi, je pense que cette Coupe du Monde... à donner un signal.
Donner l'envie, Sébastien.
Et c'est important. Je crois que pour ça, c'est important. Moi, ma petite fille, quand elle rentre de l'école, elle me dit encore,
Elle me dit encore, je vais pas jouer au football. De toute façon, elle est pas douée pour ça. Mais je vais pas jouer au football parce que c'est pour les garçons. Donc on a du chemin. Ouais. On a, il y a un long chemin. Mais je crois profondément que toutes ces audiences vont et l'essor du football de l'équipe nationale vont dans le bon sens.
Il y a déjà ça. On a donné l'envie d'avoir envie, mais je voudrais rebondir aussi sur. Mais non, mais
on
c'est facile. Pas
c'est qui,
non, non,
mais vous savez de qui ça.
Mais oh, je ne sais plus. Dave.
Encore un Belge.
Mais Dave Belge. Dave Belge. Je vais Frédéric François. Alors juste. Par rapport notamment au mandataire politique où on demande une égalité 50-50 sur les droits TV, tout ça. Il faut quand même remettre l'église au milieu du village. D'abord, ça, c'est incohérent.
Vous aimez bien cette expression.
Oui, non, mais c'est incohérent parce qu'il y a un moment, je trouve qu'il y a une grande évolution et il n'y a pas que le foot. C'est-à-dire qu'il y a aussi, notamment sur la chaîne L'Équipe et d'autres chaînes du sport féminin, mais non, mais du volley, du basket féminin, du hand. Il faut arrêter aussi ce faux combat. Je suis d'accord avec Sébastien. Moi, ça me gonfle où on essaye de mettre une espèce de climat. Il n'y a pas de climat. Il veut dire que le sport féminin, on l'a toujours aimé, on l'a toujours apprécié. Il y a aussi une question de faire
non,
de l'audience.
Attends Stéphane,
il y a comme, on doit
dire,
faire de l'audience.
Avant,
et il y a des sports.
Avant, c'était assez réservé, GRS, etc. quand même, le sport féminin.
Mais ça, c'est très macho ce que vous dites là. Et donc,
non,
je pense.
C'était.
Mais justement, donc si on veut qu'à un moment, réalité, le football féminin et compagnie viennent plus à l'antenne, regardez le hand féminin, il faut faire des résultats. Quand vous faites des résultats.
La preuve, le hand féminin, ça n'a pas marché.
Mais le hand masculin ne marche pas non plus.
Non, par exemple. Step by step, il faut laisser faire les choses comme ça, je rejoins David. On voudrait que demain.
Le seul truc, c'est que ce qui est dommage, je trouve, avec les joueuses, en tout cas françaises, à quelques exceptions près, c'est que je trouve qu'elles n'ont pas forcément les qualités, évidemment, footballistiques de certains garçons, mais en revanche, elles ont tous les défauts. Et c'est-à-dire qu'à un moment. Tu es dans un sport qui est dans un essor, tu n'as pas encore toute la pression médiatique, financière, qui amène à des comportements très politiquement corrects de la part des footballeurs. Essayons au moins de montrer des personnalités, parce qu'on a besoin de s'attacher aux personnes. Et moi, j'encourage les filles qui font du sport, du foot, aujourd'hui, à montrer leurs failles, à montrer ce qu'elles sont, à ne pas essayer d'être parfaites, et qu'il y ait un peu d'intérêt quoi, autour des personnalités.
On se retrouve dans quelques secondes, on terminera sur le football féminin, le mondial ou le sport féminin tout simplement, avec Sébastien Tarrago de l'équipe, Stéphane Powells, Bruno Constant, David Aiello de Yahoo Sport. A tout de suite pour les 5 dernières minutes d'On fait le match sur RTL.
RTL, on refait le match.
Bonjour. Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Avec Sébastien Tarrago de l'équipe, David Aiello de Yahoo Sport, Stéphane Powells, Bruno Constant, nous allons vivre les 4 dernières minutes, même un petit peu moins. Tout à l'heure, dans quelques instants, donc le multiplex RTL, le Parisien aujourd'hui en France avec Christian Olivier, Giovanni Castaldi et Cindy Colmenares. Nous allons au Parc des Princes rejoindre Nicolas Georgerot, les Montpelliérains réduits à 9.
Oui, à 9 parce que Chotard a écopé de 2 cartons jaunes en 7 minutes pour une faute sur Neymar, ensuite une faute de Kimpembe, 2 fautes grossières. Et donc exclu Montpellier à 9 et on va entrer dans le temps additionnel dans maintenant une quinzaine de secondes.
Merci Nicolas Georgerot, 5-0 pour le Paris Saint-Germain contre Montpellier. On termine rapidement, David Aiello, Yahoo Sport, sur le football féminin, le mondial. Que reste-t-il de ce mondial? Vous prenez la patience, vous pensez qu'il va y avoir, ça va encore booster, il y a l'Euro en 2021.
Il faut continuer en tout cas les efforts, c'est vrai que la médiatisation...
But de Cavani.
But de Cavani, 6-0 sur un ballon dans la profondeur, la tête de Cavani qui va dans le petit filet. Et donc Cavani qui fait son retour et qui marque et qui est entouré par tous ses coéquipiers, 6-0.
Ouais, donc Icardi, effectivement. David Aiello, Yahoo Sport, donc c'était ce football féminin.
Oui, je disais, bon, évidemment je prenais la patience, mais c'est vrai qu'il va falloir aussi continuer ses efforts au niveau de la médiatisation, les clubs. Il manque quand même quelque chose aussi d'essentiel à mon sens au football féminin aujourd'hui, c'est tout le décorum, c'est les supporters, c'est les histoires entre joueuses, c'est des joueuses qui passent d'un club à un autre, une rivalité. Bon, il y a Paris-Lyon qui est en train de se construire, mais tout ça prend énormément de temps. Donc on en a pour des années encore.
Ça veut dire que le football féminin, en fait, c'est le canoë-kayak, quoi. C'est qu'on va s'y intéresser tous les 2 ou 4 ans pour les JO. Même. Et ça va être la même chose pour le foot féminin, pour les grands tournois, et c'est tout.
Ou alors il va falloir mettre
Stéphane Powell,
un peu plus d'argent pour essayer de créer une dynamique.
Il faut que le niveau s'élève.
C'est le fossé, le niveau s'élève, mais je veux dire, tu peux pas mettre de l'argent que au PSG qu'à Lyon.
Ouais, le niveau c'est mieux. Le niveau est considérablement changé.
Il partait tellement bas qu'il y a 15 ans, même 10, le niveau s'est élevé. Il y a encore un problème avec les gardiens. Alors là, il y aura un long débat à faire sur Mais, gardienne. Mais je sais que c'est, je comprends pas la polémique, mais on pourrait s'interroger sur les tailles de terrain, sur
taille des buts. Le but a été annulé.
Enfin, ouais, but refusé.
Ouais, but refusé. Il y a eu la VAR et but refusé. Donc il n'y aura pas le 199e but de Cavani avec le Paris Saint-Germain.
C'est bizarre parce que ça semblait pas, il me semblait pas hors jeu Cavani. Moi, il était sur la même ligne que le défenseur, mais apparemment, on sait pas lire les mêmes images avec les arbitres et ceux qui officiaient avec la VAR.
C'est pas nouveau. C'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas arbitre.
Ouais, c'est possible. Moi, un joueur sur la même ligne, pour moi, il n'y a pas hors jeu.
Mais donc il y a des progrès. Il y a quand même des progrès et voilà, il faut encore une fois des personnalités. Je suis désolé, mais Rapinoe, la joueuse américaine, on aime, on n'aime pas. On la fait plus. C'est l'expression de Stéphane. Elle a un boulard énorme. Ouais, ok, c'est vrai. Mais au moins, elle dit des choses. Mmh. Et je suis désolé, c'est idiot, mais vous avez du coup envie de l'avoir joué le match d'après. Ouais. Donc, allez, les filles. Lâchez-vous un peu.
Juste
dire bravo à Jean-Michel Aulas, il est souvent allumé pour certains domaines. Ouais. Il a cru au football féminin.
Louis Nicolas en premier, en France.
Louis Nicolas. Et ces gens-là, il faut le dire, quoi. Ils ont mis du pognon pour les femmes, pour le foot. Et...
Christian Olivier, 19h30, le multiplex. Le Parisien,
le patron. Alors, si vous voulez des polémiques, des histoires, évidemment, pour parler du football féminin, dans ces conditions, on a assez de polémiques avec les mecs. Donc, je veux dire, regardons le jeu.
Il n'y a rien,
Je sens une certaine forme de discours convenu dans ce que vous avez dit depuis un quart d'heure. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a un petit fond de sauce quand même un peu machiste malgré tout.
Absolument pas. Vous serez ce soir avec Cindy Colmenares.
Oui, alors on ne sait d'ailleurs pas si Philippe Sanfourche avait besoin de repos et s'il avait envie de prendre ses vacances au mauvais moment ou s'il s'est dit bon, le sport féminin, c'est peut-être pas mon truc, je vais laisser mon fauteuil. On lui posera la question.
Il a l'habitude de parler de trucs dont il connaît rien.
Mais je puis vous dire.
C'est une blague.
Vous réglerez ses comptes et vos comptes.
Je n'en pense pas.
Jusqu'à 23h, oui. Avec Cindy Colmenares, effectivement, le multiplex Le Parisien aujourd'hui en France. Aussi, sans oublier, je n'avais pas terminé la phrase, il y avait une virgule derrière Colmenares. Sans oublier Giovanni Castaldi, sans oublier le jeune Quentin, et bien sûr, tous les auditeurs déjà très nombreux depuis 18h30.
Merci, très bonne.